C'est parti.
Bonjour à tous. Et je vous souhaite, puisque j'ai le micro, c'est un avantage, je vous souhaite une bonne santé spirituelle et une bonne année dans le Seigneur. Ce matin, je voudrais vous parler d'une histoire que j'ai lue. C'est il y a très longtemps, hein, en 1436, vous voyez, c'est assez vieux. Il y a un jeune clerc italien qui était nommé Thomas d'Aruzzo. Et pour ses études, il avait besoin de venir à Constantinople. C'est là qu'on était à l'époque très branché écriture. Et il était étudiant, donc il voulait venir étudier les Saintes Écritures et les Écritures des Pères de l'Église. Et c'était un étudiant assez pauvre, et donc il n'allait pas au restaurant tous les jours, et il fallait qu'il fasse sa cuisine. Et un jour, il va sur le marché à Constantinople, et il achète du poisson. Et puis, lui enroule ses poissons dans du papier, il rentre chez lui, il commence à déballer ses poissons et à faire sa friture. Et il regarde les papiers comme ça qui entouraient les poissons, et il découvre dessus des espèces de signes mystérieux. Je dis, tiens, c'est bizarre. Il commence à ouvrir ses papiers et il s'aperçoit que c'est écrit, des écrits grecs. Il commence à lire. Il s'aperçoit que ce sont des écrits religieux, très anciens. Et donc, il laisse sa friture sur son feu, il court sur le marché, et il va voir le poissonnier, il dit, est-ce que vous pouvez me vendre les papiers que vous utilisez pour envelopper vos poissons? Et le gars lui dit, ouais, mais il faut me payer, hein, parce que moi, je vais envelopper mes poissons avec quoi? Donc, il paye une somme minime au poissonnier. Et il rentre chez lui et il découvre que ce sont de très vieux textes grecs du 2e siècle, donc qui étaient perdus comme ça. Et dans ces textes grecs, il va découvrir des textes de Justin, hein, c'est un auteur du 2e siècle, des textes de Cyrille d'Alexandrie, d'Athanase, de tous les pères de l'Église. 22 livres, il va découvrir. Et alors, l'intérêt de ces livres, c'est que ces livres vont être bien sûr recopiés parce qu'ils étaient extrêmement importants pour l'histoire de l'Église. Et on va les retrouver en 1795 à la bibliothèque municipale de Strasbourg, complètement encore une fois oubliée. Et donc là, on va en faire des copies pour s'intéresser. Et malheureusement, ils vont disparaître à la Révolution, qui vont être brûlés. Mais on avait des copies. Donc, et ces textes sont extrêmement intéressants. Bien sûr, ce ne sont pas des textes inspirés, hein, ce sont des textes historiques, mais ils décrivent l'histoire des premiers chrétiens. Et c'est là-dessus que c'est intéressant. Et l'un des textes les plus importants, les plus intéressants, c'est un texte anonyme qui décrit, c'est une lettre qui est écrite à un haut fonctionnaire romain en Égypte, et il décrit en outre la situation des chrétiens du premier siècle. Et ce n'était pas non plus une vie de rêve pour les chrétiens du premier siècle. Les textes qui sont donnés, un des écritures que j'ai retiré de ça, c'est « Toute terre étrangère leur est une patrie, et toute patrie une terre étrangère ». C'est-à-dire que les chrétiens, eh bien, lorsque l'auteur de ce texte écrit à ce haut fonctionnaire romain, il souligne simplement la conformité des chrétiens aux normes et aux usages, les mêmes langages, les mêmes vêtements, la même nourriture. Mais voilà, s'ils obéissent aux lois établies, leur manière de vivre l'emporte sur ces lois. C'est-à-dire que ces premiers chrétiens, eh bien, suivaient d'abord les lois de l'Évangile, la loi d'amour, et ils avaient une audace à cette époque de vivre leur foi telle que le Seigneur le voulait. Et ils marquaient tous les gens qui étaient autour d'eux. Et ça me fait penser à ce passage dans Matthieu au chapitre 5, versets 13 à 16. « Vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. » Et ce n'est pas une idée nouvelle qui est développée ici. Déjà en Lévitique, chapitre 2, verset 13, tout ce que tu présenteras en oblation sera salé. Alors, pourquoi est-ce qu'on salait les aliments? Ben, pour donner un goût, pour donner de l'intérêt aux aliments. Ben, c'est la même chose pour nous, les chrétiens. Nous devons avoir ce goût salé. Dans un texte de Tertullien, dans son apologétique, il dit: on ne naît pas chrétien, on le devient. C'est-à-dire que, comme tout aliment, on a besoin de le saler. Ces chrétiens du premier siècle sont persuadés, et c'est ce qui ressort de ces textes que cet étudiant a trouvé entourant ces poissons, ces chrétiens du premier siècle sont persuadés d'avoir, durant leur passage sur cette terre, un poste à tenir qui ne leur est pas permis de déserter. Toute la pensée de ces écrits. Et chaque chrétien et chaque chrétienne doit découvrir, grâce à la parole de Dieu, eh bien, quel poste il a à tenir. Et dans la République chrétienne, cette ambition n'est pas le monopole de certaines personnes, mais c'est le devoir de chacun d'entre nous d'avoir ce poste que nous avons à découvrir. Alors, regardez ce passage en Matthieu chapitre 5, versets 13 à 16. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient nos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans le ciel. Ce n'est pas pour être remarqué que les chrétiens doivent être le sel de la terre, mais c'est pour glorifier Dieu. Et ça, je ne peux pas m'empêcher de penser à tout ce qui se passe à l'heure actuelle dans le monde. Et j'ai lu un article dans Valeurs Actuelles qui parle, le titre est Le martyr des chrétiens. Et alors, il faut bien sûr faire la différence entre, je dirais, ce martyr des chrétiens qui prêche Jésus-Christ, et puis peut-être un martyr qui est dû à un mode de vie différent. Mais vraiment, on a là quelque chose qui est terrible pour ces gens, hein, qui professent le nom du Seigneur. Et j'ai une carte avec tous les endroits où c'est terrible. On n'arrive pas à citer tous les pays. Regardez ce qui se passe au Maroc, en Algérie et même en Tunisie. Présent au Maghreb dès le 2e siècle, puis étouffé par l'islam à partir du 7e siècle, les chrétiens ne représentent plus que 1 à 1,5% des 80 millions de Maghrébins. Au Maroc, ils ne sont pas réprimés, mais surveillés, surtout les évangélistes, très prosélytes. En Tunisie, les présidences Bourguiba et Ben Ali furent plutôt tolérantes à leur égard. La parenthèse islamiste faillit tout remettre en question. Le départ forcé d'Ennahdha du pouvoir a été un retour à la raison. La constitution de janvier 2014 fait de la Tunisie le seul pays musulman à garantir la liberté de croyance, de conscience et le libre exercice des cultes. Patrie de Saint-Augustin, l'Algérie indépendante n'a jamais fait de cadeau aux chrétiens. L'idéologie arabo-islamique totalitaire de ces 50 dernières années s'est accompagnée de discrimination et d'interdiction. Les chrétiens ne seraient plus que 70 000 sur 39 millions d'habitants, contre 100 000 en 2002. Il est interdit de changer de religion ou de rompre le jeûne du Ramadan. Les Algériens désireux de se convertir sont encouragés à quitter le pays. La poussée islamiste des années 85-92, puis la guerre civile 92-99 ont achevé de marginaliser les chrétiens. Et beaucoup de pays sont comme ça. Même un pays qu'on pourrait croire libre, par exemple Israël, eh bien, il dit, les citoyens non juifs ont les mêmes droits et obligations que les juifs, mais les chrétiens sont marginalisés, interdits de certains emplois. Donc vous voyez, il y a là, dans ce vieux texte du 2e siècle, comme quelque chose d'extrêmement Actuel, exactement, actuel. Et donc, quand on dit vous êtes le sel de la terre, eh bien, ces gens-là qui professent le nom de Jésus-Christ sont dans ce pays le sel de la terre. Ils ne veulent pas perdre leur pensée et leurs idées sur Jésus-Christ. Alors, notre vie, bien sûr, dans tous les domaines, doit glorifier notre Dieu, non pas pour que la gloire nous retombe sur nous, comme dans une espèce d'humanisme, mais pour que notre Père soit glorifié et connu. Faire connaître l'amour de Dieu à ceux qui nous entourent, voilà notre objectif. Faire connaître son plan, voilà notre but. Et c'est parce que cet objectif nous paraît extrêmement grand. Comment est-ce qu'on peut tous les jours aller parler à tous ceux qui nous entourent de Jésus-Christ? Eh bien, c'est vrai que ça paraît difficile. Nous devons demander l'aide de l'Esprit Saint pour nous guider. Et c'est lorsque l'Esprit de Dieu est en nous que nous sommes sûrs de réussir. C'est pourquoi nous pouvons dire que les chrétiens, et là on le voit dans cette histoire actuelle, eh bien, défient le monde, défient l'histoire. Et il faut absolument que nous prenions de l'assurance. Mais ça demande une recherche sur nous-mêmes, un temps de pause, un temps de réflexion. Je vous ai déjà raconté cette histoire, c'est l'histoire d'un ethnologue qui va en Australie et qui veut un petit peu étudier la vie et les coutumes de ce qu'on appelle les aborigènes ou les premiers habitants de l'Australie. Alors il vit avec eux et puis il se promène dans le bush, là, dans la brousse et par moments il voit ces gens s'arrêter alors que c'est pas le moment de manger ni de se reposer. Et bon, au début il dit rien et puis n'y tenant plus au bout de quelques jours, il va tout simplement leur demander, mais pourquoi vous vous arrêtez comme ça? Et ces gens-là lui disent simplement, nous attendons nos âmes. Tiens, vous attendez vos âmes? Il dit oui, parce que on est tellement envahi par le monde qui nous entoure que il faut qu'on attende nos âmes pour qu'elles reviennent en nous, pour que nous puissions réfléchir. Alors bien sûr, nous devons nous aussi parfois prendre des pauses pour réfléchir à ce que nous allons faire, on est en début d'année, de ce que nous allons faire cette année pour le Seigneur. Alors prenez le temps de vous reposer, d'attendre vos âmes pour que ils puissent vous faire réfléchir, ces âmes qui doivent être illuminées par l'Esprit Saint. Alors, souvent on parle de notre pays, de notre temps, comme une époque post-chrétienne. Où les valeurs morales ainsi que tous les fondements bibliques que nous avons, eh bien, ont disparu. Eh bien, les chrétiens doivent défier le monde, comme ces chrétiens qui sont dans ces pays où c'est difficile, je dirais même très difficile d'être chrétien. Nous avons à défier le monde avec nos valeurs d'amour, avec nos valeurs de justice. L'Église doit défier le monde avec son message d'espérance que Jésus est venu apporter au monde. Et on peut se poser cette question, à qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Vers qui d'autre pouvons-nous nous tourner pour défier le monde, pour être le sel de la terre? À un moment, on dira, si le sel n'est plus bon, à quoi sert-il? Bien, c'est la question qu'il faut se poser dans nos esprits, dans nos âmes. Il faut avoir de l'audace pour Jésus-Christ. Il faut avoir de la joie pour notre salut. Et il faut être rempli d'amour que Dieu nous donne pour le propager autour, propager son plan, lui parler de l'amour de Dieu, mais aussi de la justice de Dieu. Dieu est un Dieu juste qui va châtier, qui va punir. Et c'est aussi notre devoir d'annoncer ça. Alors, ce n'est pas toujours facile de le faire. Mais vous savez, il y a des choses qui sont extrêmement encourageantes. Je lisais un petit texte des années précédentes et le thème de ce texte était Dieu vengeur ou Dieu de grâce. Et je vais vous le lire parce que c'est intéressant. Un Indien né dans la plus haute caste de la société hindoue lisait chaque jour à haute voix dans la Bhagavad Gita, qui est l'ouvrage religieux. Très connu en Inde, hein, c'est un peu leur Bible là-bas, ce qu'il lisait sur le dieu Krishna le fascinait. Un jour, une phrase du quatrième chapitre de ce livre le consterna. Krishna vint pour sauver le juste et pour condamner le pécheur. Il relut ses paroles, puis désespéré, il ferma le livre. Il lui semblait que son sort était inéluctable. Krishna condamne le pécheur. Mais je suis un pécheur, donc il n'y a pas de délivrance pour moi. Quelque temps après, il entendit un missionnaire parler de Jésus-Christ, venu dans le monde pour sauver des pécheurs. Cela éveilla son intérêt. Il se mit à lire la Bible, ses convictions commencèrent à être ébranlées. Durant des mois, son esprit fut en proie à une lutte intense. Un jour, en lisant la Bible, il tomba sur le verset suivant. Je ne me souviendrai plus jamais de leurs péchés ni de leur iniquité. Hébreux 8:12. Alors il comprit. Voilà les paroles d'un Dieu qui m'aime et qui veut pardonner mes péchés parce que Jésus-Christ est venu sur la terre pour mourir pour moi. Comme cet Indien, venons-en au Dieu de grâce, acceptons avec foi le salut et le sauveur. L'incertitude disparaîtra et la paix remplira le cœur. Nous avons en tant que chrétiens ce devoir d'être le sel de la terre, même dans les difficultés. Et je sais que dans nos pays, on dit toujours on n'est pas martyrisé, mais c'est la société qui est dure à su. Soyons un peu justes, hein. Regardons ceux qui souffrent dans des pays pour le nom de Jésus-Christ. Et regardons si nous, nous ne pouvons pas faire quelque chose de mieux que ce que nous faisons actuellement. Laissons parler nos âmes éclairées par l'Esprit Saint. Ayons de l'audace pour Jésus-Christ, ayons de la joie pour notre salut et soyons remplis de l'amour de Dieu. Amen.